Alors j'ai beaucoup apprécié ce temps de prière et de chant et louange. D'abord parce que ça a touché des thèmes qu'on va lire dans ce texte ce matin. Je pense particulièrement, on a chanté par rapport à la lampe, la lumière, que la parole brille sur notre chemin. Et aussi Christy Chloé qui a prié, qu'on puisse prier nous-mêmes auprès des gens autour de nous. Ça reprend exactement le thème de ce matin. Alors on va passer au deuxième PowerPoint là. C'est évidemment le deuxième message sur le témoignage du disciple. Et si vous avez votre canava, vous avez livré, vous avez aussi une page avec un plan. Le témoignage du disciple, c'est la page 14 si vous utilisez niveau 2. Je me souviens de certaines vacances plus que d'autres. Et je me souviens des vacances avec mon père qui était unique. Il faut expliquer, dans ma famille, évidemment, il y a papa et maman. C'était unique parce que c'était la première fois que mon père osait prendre les trois garçons pour partir en vacances sans notre maman. Et ma mère, elle est mère maintenant, à l'époque c'était trois enfants, mais elle est mère de six enfants. Et je pense que Sandra connaît comme moi, elle est un superwoman. Elle a pu élever six enfants, elle a, je pense, à peu près 90 ans. Et juste samedi dernier, elle était en train de danser toute la nuit à la fête de mon frère. Alors, vous voyez ? Alors, c'était unique parce que mon père a osé partir en vacances avec trois gamins, mais sans maman. Bon, c'était plus ou moins bien organisé, on est arrivé. Mais je me souviens aussi de ces vacances pour une deuxième raison. C'était des vacances uniques. Parce que c'était pour la première fois et la dernière fois que j'ai fait de la pêche. J'ai pêché pendant une journée, sous la pluie, on n'a rien attrapé. Mon père ne savait pas pêcher. Il a dit, ça sera bien que les gamins ils apprennent, mais en fait, vous voyez, hein, on n'a appris rien de mon père. On y rentrait sans poisson. Alors, je pensais à cette histoire parce que quand on lit l'évangile de Marc, on voit en fait une petite histoire juste avant chapitre 5. Alors, je vais donner quelques pistes pour comprendre le contexte du sermon sur la montagne. Et on va juste lire ce qui arrive avant le sermon sur la montagne, qui peut expliquer le pourquoi de ce discours de Jésus. Parce que dans le chapitre 4, nous avons l'appel des disciples. Et ensuite, il enseigne des disciples, au chapitre 5 au 7. Hein. Alors, je vais lire le texte à partir de verset 18 du chapitre 4. « Au bord de la mer de Galilée, Jésus vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer. En effet, ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi, c'est-à-dire, devenez mes disciples, suivez-moi, et je ferai pêcheur d'hommes. » Alors, je peux vous dire maintenant, quand j'entends le mot pêcher, pêcheur, j'ai un peu peur. Mais là, quand Jésus annonce « je vous ferai pêcheur d'hommes », il parle évidemment de comment il va préparer, former ses disciples à devenir ceux qui vont amener d'autres disciples à connaître Jésus. Et pour moi, quand on utilise une image de pêche, vous pouvez imaginer, moi j'ai un peu peur. Je pense à mes faiblesses, je sais, j'ai peu d'expérience comme je l'ai fait pour la première fois de la pêche. Comment je peux témoigner? J'ai des questionnements, est-ce que je vais rater? J'ai passé mon temps à rater une journée et rien ne se passe. Pêcher, pêcher des hommes, pour moi, ce n'est pas le plus facile. Témoigner. Et je vous pose la question, par rapport à cette année qui touche à sa fin, quel témoignage avez-vous porté auprès de vos amis cette année. Comment ça s'est passé pour vous? Quel témoignage? Je ne sais pas, hein? Vous avez la réponse. Alors, dans ce texte que nous allons lire maintenant, c'est dans chapitre 5, Jésus est en train de préparer ses hommes à pêcher pour les hommes. C'est une formation, un camp formation si on veut. Et nous lisons maintenant que Jésus a commencé d'abord son discours avec « Je vous fais grâce ». Comme mes disciples, vous allez me suivre et vous serez heureux. Vous serez heureux parce que nous avons découvert, parce que Dieu veut nous bénir par la mort et la résurrection de Jésus.
Je pose une question, est-ce que vous êtes heureux de suivre Jésus? Mais aujourd'hui c'est aussi, est-ce que nous sommes prêts à témoigner?
Jésus a commencé avec des bénédictions, maintenant il passe un discours où on parle dans versets 13 à 17 du témoignage. Je vais le lire. C'est vous qui êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par des hommes. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sous le chandelier, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Voici le texte clé, verset 16. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Quand Jésus enseigne ici, c'est maintenant par rapport au témoignage. Verset 16, il dit que les hommes voient votre lumière. Et c'est quoi la lumière? Vos bonnes œuvres. C'est là où Jésus veut commencer avec notre témoignage, c'est que nous soyons témoins par nos vies, nos bonnes œuvres. Et en fait, si on découvre petit à petit ce discours du roi, on va voir, il centre vraiment son enseignement sur chapitre 5, on va voir ça demain, la justice supérieure au plus juste qu'on peut imaginer par la société juive. Il va parler d'une piété sans hypocrisie. Il va parler de ceux qui s'attachent à Jésus et lui seul. Il commence à nous dire, pour témoigner, d'abord il faut être disciple avant de faire des disciples. Vous voyez la différence? Il faut être un disciple de Jésus avant de faire des disciples. Et ce qui est incroyable, c'est vous êtes, et je vous adresse personnellement, vous êtes la lumière du monde. C'est déjà un peu quand même bizarre et incroyable que Jésus décrit ces quelques villageois, hein, des campagnards de Palestine, comme sel et lumière du monde. Leur influence doit se propager parmi toutes les nations sous la terre. Et Jésus nous adresse la même parole, vous êtes la lumière du monde, des nations de la terre. Nous allons maintenant regarder deux textes en fait. Encore une fois, je dis, on va faire un peu dans cet enseignement ce matin, non seulement la réflexion sur ce texte 13 à 17, mais aussi voir un peu plus loin. Le deuxième texte, non, on ne va pas passer tout de suite à cela, merci, ce sera la fin. On va aussi lire un deuxième texte, c'est la fin de l'Évangile. Et c'est dans chapitre 28, on va revenir à la fin, où Jésus enseigne à tous les disciples, vous aussi, vous aurez un témoignage dans le monde, auprès de toutes les nations. Versets 18 à 20. Jésus maintenant, qui est mort et ressuscité, les disciples, ils virent Jésus, verset 17, ils l'adorèrent, et verset 18, Jésus s'approcha et leur parlait ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations. C'est comme avant, hein? Soyez la lumière du monde. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et alors, quand vous regardez le plan, vous avez d'abord le témoignage d'un disciple, toi et moi, dans chapitre 5, le premier point, et le deuxième, le témoignage de tous les disciples, à partir de Matthieu 28. Et si je peux résumer ce message pour nous, pour moi, pour vous, je dis, vivez comme lumière du monde, chassez le pessimisme et côtoyez des étudiants au campus. Vivez comme lumière du monde, chassez le pessimisme et côtoyez des étudiants sur le campus. Voilà, on va développer ça. On va passer à, d'abord juste un temps d'observation. Si on regarde encore Matthieu chapitre 5, versets 13 à 17, vous pouvez observer avec moi deux métaphores, deux exemples, deux conditions et deux exhortations. Ce n'est pas très difficile. On va commencer. Quelles sont les deux métaphores mentionnées dans le texte? Sel et lumière. Très bien. OK. Alors, il y a deux exemples par rapport à la lumière. Quels sont les deux exemples? Il y a une métaphore, mais il illustre avec deux exemples. Non, ça c'est la métaphore, lumière du monde, mais il donne des illustrations concrètes. La ville qui est sous la montagne et la lampe sur un seau, voilà, on met sous la table. Pourquoi la lumière ressemble à une ville sur une montagne, à votre avis? Question d'interprétation, juste pour vous réveiller un peu, mais c'est quoi? Pourquoi la lumière, c'est comme une ville? Ça se voit, mais le rapport avec lumière, c'est, on peut voir ça. À la hauteur, plus exposée, mais je pense aussi la lumière est illustrée par cette idée de ville, parce que vous imaginez, vous partez, marchez, vous êtes en voyage, et à cette époque, il n'y avait pas d'autoroute, il n'y avait pas des lumières sur l'autoroute pour arriver à votre destination. Vous passez dans la nuit, vers la fin de la journée, et là, sur une colline, vous voyez la destination. Parce qu'à la ville, il y avait des lampes dans les maisons, et vous voyez où vous allez. Vous avez un point de référence. Je pense que c'est ça. Et même peut-être certains gens pensent la ville, c'était une image pour penser à Jérusalem. Parce que dans l'Ancien Testament aussi, c'était une représentation qui est la lumière du monde. C'était des nations qui viennent aussi voir Dieu dans son temple. Mais on va aller un peu plus loin. Il y a le mot « si » qui arrive deux fois, deux conditions. Non? Si, verset 13. Vous êtes là, hein? Qui veut répondre? Si le sel fait sa saveur, et si on a une lampe, on ne va pas le cacher. Hein? Ce sont en quelque sorte des exemples où en fait il veut nous avertir, parce que ce sont des exemples négatifs. Si un sel devient fade, si la lumière est cachée, ça ne sert à rien. Et pire. Et finalement, nous avons aussi deux, à mes yeux, exhortations qu'on va voir à la fin. Mais ça, c'est pour observer le texte. C'est un texte très connu, mais parfois, on a quand même besoin de revenir, comme on a fait, à observer le texte. Maintenant, pour aller plus loin, on va déchiffrer cette image, ces illustrations, avec, évidemment, verset 16, qui est très important parce que là, nous avons l'interprétation donnée par Jésus. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Les bonnes œuvres. Notre vie est une lumière auprès des autres. C'est intéressant, quand on regarde l'évangile de Matthieu, en fait, nous avons, pour témoigner, Jésus qui forme ses disciples, d'abord avec un enseignement, mais aussi il est un exemple des bonnes œuvres, des actions. Chapitre 5 à 7, il y a un enseignement. On passe à la vie de Jésus en action, chapitre 8 et 9, et ensuite il y a des paraboles, une deuxième section d'enseignement. Ensuite, 11 et 12, Jésus passe encore en action, et verset 13, il y a encore, excuse-moi, chapitre 10, c'est l'envoi des disciples, chapitre 13, c'est la parabole, les paraboles. D'accord ? Ensuite, il y a une autre section d'action, et ensuite, une section d'enseignement, chapitre 18. Ensuite, Jésus s'approche de Jérusalem, et chapitre 23, 24, 25, il y a encore une cinquième section d'enseignement. Pour témoigner, Jésus montre que c'est par nos paroles et par nos actions, nos bonnes œuvres. Mais pour commencer, Jésus dit, je veux vous montrer comment être témoin. Par votre vie, vos bonnes œuvres, vos actions. Alors, ce que nous avons ici, c'est plutôt maintenant, à mes yeux, une interprétation de ce qu'on peut comprendre de ces images du sel et lumière. D'abord, vivre dans le monde. Jésus embauche le disciple pour une vocation, vivre dans le monde. Jésus nous envoie dans le monde, envers nos proches, vos familles, ma famille, nos voisins dans la résidence étudiante, envers nos amis à la fac. Nous sommes des pêcheurs d'hommes. Et comme j'ai à moi appris une chose avec mon papa, pour faire de la pêche, pêcher des poissons, on doit aller au plan d'eau ou à l'océan en mouiller les pieds. Lancer sa ligne. L'hameçon doit être dans l'eau et non pas sur la rive pour attraper des poissons. Aller dans le monde pour pêcher des hommes. Et pourtant, la plupart d'entre nous, on arrive à un moment où on se rend compte de ne plus garder contact avec des non-chrétiens, comme c'était encouragé par notre ami Mika. Qu'est-ce que nous avons fait pour avoir des amis où on peut partager l'évangile? Et c'est vrai, souvent, un bon début, une bonne nouvelle, on juge selon ses activités, son programme d'activité de la semaine. Est-ce qu'il y a beaucoup d'activités pour le chrétien à l'église? Là, ça tombe bien. On a des amis super, nous passons notre temps avec des gens sympas, on est actif. Mais nous sommes tellement pris que nous n'avons plus de temps disponible pour pêcher des hommes. Pour nous arrêter et parler avec notre voisin dans l'escalier. Ou dire un petit bonjour à notre boulanger le matin. Je trouve ça assez essentiel de voir comment je peux mettre dans le programme de la semaine des moments où je partage juste ma vie avec d'autres qui ne sont pas chrétiens. Avez-vous un club de musculation? Une assos? Un rendez-vous au resto-U où vous avez la possibilité de passer du temps régulier dans le monde? On se dit, ils sont difficiles ces gens-là. Différents. Soulants. De quoi parle-t-il? La mode, le week-end, du foot, c'est saoulant. Mais imaginez ce qu'ils pensent de nous avant d'accepter de venir au GBU. Nous sommes aussi, à leurs yeux, saoulants. On a besoin de créer des passerelles pour créer des contacts et inviter des amis à découvrir Jésus. Mais il faut quand même avoir autant d'engagement à participer à un GBU que passer du temps, par exemple, au resto-U pour parler avec ses amis. Il faut fixer de son agenda un temps aller prier avec ses amis et aller peut-être faire du sport avec ses amis. Vous voyez ? Il faut pêcher des hommes. Il faut mettre la ligne dans le plan d'eau. Côtoyer des gens du monde universitaire pour vivre dans le monde. Partager votre passion. Qu'est-ce que vous aimez faire ? Tricoter ? Je suis sûr, il y a d'autres étudiants et étudiantes qui aiment bien tricoter. Ça peut être une lecture. Je sais que quelqu'un ici a envie de créer un club de lecture. Ça, c'est une bonne chose. Pensez ce que vous aimez faire. Faites-vous plaisir et invitez aussi des amis. Côtoyer des gens du monde universitaire. C'est exactement ce qui est la vision de Jésus, n'est-ce pas ? Faites connaître l'Évangile dans le monde universitaire. Ça, c'est notre monde. Côtoyer des gens du monde à l'université. Deuxième chose, c'est évidemment, cette image oppose lumière aux ténèbres. Ce qui brille et ce qui est obscur. Nous sommes évidemment deux entités différentes. Il y a dans les deux métaphores l'idée que l'Église et le monde sont deux entités différentes. C'est clair. Les deux métaphores soulignent cette différence. La lumière éclaire les ténèbres, le sel est l'argent de conservation des aliments. Alors, il y a plusieurs idées pourquoi le sel est une bonne image par rapport à la nourriture. Moi, je pense plutôt que c'est par rapport à ce qui peut donner goût et préserver l'aliment. Avant la découverte de la réfrigération, le sel était le moyen par excellence de conserver la viande. Et encore de nos jours. Moi, j'aimais bien, quand j'étais étudiant, passer dans des pays différents, exotiques. Alors, une fois, j'étais au Népal et j'ai vu un boucher, mais pas dans son magasin, dans la rue. Il a égorgé devant les villageois le bœuf. Et évidemment, le steak et le steak haché étaient à vendre tout de suite. Il n'y avait pas de frigo. Chacun y commandait sur place. Il découpait pour chacun ce qu'il fallait pour manger. Mais je peux vous dire, pour garder cette viande fraîche, ils avaient du sel. C'était ça qui gardait la saveur et cette viande pour plus longtemps. Sinon, ça va pourrir. Alors, c'est une image qui explique qu'il y a évidemment entre le monde et l'Église deux entités différentes. Et je pense que c'est le plus facile parce que pour nous comprendre ça dans un pays comme la France, laïque, nous savons qu'il y a vraiment une différence, une opposition entre le chrétien et la société, le monde. L'université est un lieu laïque. Vous êtes endoctriné, ou bon, enseigné. Depuis l'école maternelle, il y a la religion et l'éducation. Vous êtes un disciple sur le terrain intellectuel. Vous allez en cours et vous savez, les présupposés matérialistes s'opposent à votre foi. Vous êtes dans un cours de 30, 100 ou plus d'étudiants et vous êtes le seul disciple. Et vous savez, vous êtes en minorité. Il y a différence entre les deux. Vous faites une demande de salle pour un GBU, mais vous savez que les préjugés du monde, de la fac, ne favorisent pas l'autorisation d'une salle. Je pense que vous voyez plusieurs exemples. Jésus explique avec clarté, vivant en France, nous avons une vie différente que le monde. Et pourtant, Jésus va plus loin, il dit « vivre autrement ». Les choses ici ne sont pas très compliquées. Je cherche simplement à illustrer des choses pour qu'on puisse vivre sur ce que Jésus dit. Vivre autrement. C'est très important, ce que je voudrais dire ce matin, que Jésus mette en avant l'influence positive des disciples sur l'environnement pollué de ce monde. Vous avez un impact comme une lumière qui brille le matin. Vous avez une vie positive qui va aussi, comme dans une panne d'électricité, donner de la lumière. Je peux peut-être dire, je le sens en France, après avoir passé 3-4 ans en France, je deviens très pessimiste. Je ne sais pas si parce que c'est Il fait très moche en Alsace. Il fait nuit de longues heures en hiver. Mais je pense que c'est plutôt le caractère pessimiste, cynique, qui existe, qui fait que moi aussi, en tant que chrétien, je suis pessimiste sur mon témoignage. Ce désespoir nous saisit aussi et nous paralyse. On entend souvent aux journaux, la société est pourrie, les politiciens pourris, la crise économique, on ne va jamais s'en sortir, le chômage, on lit toujours, toujours, ça va mal. La société est pourrie jusqu'à ses racines, pour mélanger des métaphores. Mais ce sont des chrétiens qui disent cela. Tout va mal, il n'y a rien à faire, pas d'espoir, sinon le retour de Jésus-Christ. C'est là où on doit rejeter le pessimisme. Parce que Jésus dit, nous avons un impact positif comme une lumière dans la nuit. Est-ce que vous êtes aussi marqué par cet esprit, ce virus de pessimisme? Parce que si c'est vrai, c'est presque hérétique. Vous êtes des hérétiques si vous ne croyez pas ces paroles. Jésus dit, brillez comme lumière dans le monde. Parce que quand on lit tout l'Évangile, vous avez quelque chose qui est plus cohérent que le pessimisme. Dieu nous a créés à son image. Ces hommes que vous dites sont pourris sont des créatures à l'image de Dieu. Et Dieu les aime comme il vous aime. Vous n'êtes pas meilleur. Alors, pourquoi on dit « ils sont pourris » Ça ne vaut pas la peine, c'est pessimisme. Certes, il y a la chute. Certes, il y a des dégâts dans le monde. Mais nous étions aussi comme eux. C'est seulement par la grâce, les bénédictions que Jésus nous porte, on peut s'en sortir. Mais Jésus nous a aimés, il nous a bénis. Et la chute n'est pas la fin de l'histoire. Parce que Dieu a tant aimé ce monde, le monde pourri, qu'il a donné son Fils, et nous sommes la lumière du monde. Comme Jésus est la lumière, nous sommes aussi les lampes qui brillent grâce à l'électricité de cette lumière de Jésus. Non au pessimisme. Oui, brillez comme lumière. Vous avez un impact positif. Je pense simplement, Jésus veut chasser notre pessimisme, mais aussi, avons-nous une vraie confiance dans la puissance de l'Évangile? Est-ce que hier soir, quand vous avez passé ces moments de partage, vous avez entendu ce qui est du monde pourri, noir, obscur? Jésus a changé dans la vie des uns des autres ici. Ce n'est pas simplement d'avoir des attitudes positives, mais c'est parce que la puissance de l'Évangile peut changer la vie des gens comme vous et moi. Et c'est pour cela, à cause de cette bonne nouvelle, la puissance de l'Évangile en Christ, nous pouvons avoir confiance, espérance, optimisme pour briller comme lumière dans le monde. Finalement, je pense que Jésus met le point sur le « i » avec des applications. D'abord, un avertissement. Jésus est très fort pour donner avertissement et encouragement. Avec ses affirmations, Jésus dit « Vous êtes la lumière et le sel du monde ». Il donne aussi un avertissement. Comme on l'a lu, « Si le sel devient fade, verset 13, avec quoi le salera-t-on ? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par des hommes. » Foulé aux pieds par les hommes, moi je joue au foot australien, ça peut faire mal. C'est vraiment, ça ne sert à rien. Est-ce que c'est là où on a besoin d'écouter Jésus? J'ai posé la question, comment cette année s'est passée par rapport à votre témoignage? La tentation de se conformer au moule du monde est présente. La tentation de se cacher et rester invisible est aussi présente. Se conformer, se cacher, ce sont des avertissements. Jésus nous connaît, il dit, attention, le sel peut devenir fade. Et j'ai besoin d'entendre cet avertissement. Mais on peut sortir de cela. On peut être différent. On peut être aussi quelque chose et quelqu'un qui a envie d'être différent, de garder son sel. Je vais donner un exemple d'un ami dans un autre domaine, le football australien. J'ai un ami, Marc, qui est à Strasbourg. Et je sais, quand il a commencé une équipe de foot, football australien, c'était, et peut-être encore, c'est un sport peu connu. Un groupe en minorité. Un groupe qui était, parfois, quand les gens ils savent un peu, violent. C'est pas très apprécié. Mais Marc, mon coéquipier, il est très sympa. Et même s'il est plutôt introverti, quand il a quelque chose qui le passionne, il en parle, il agit. Il ne se conforme pas à la mode du foot, du tennis ou ping-pong. Il dit, il témoigne. Le footy réunit tous les meilleurs éléments d'autres sports. Le volley, le basket, le rugby, c'est le sport complet. Il ne va pas lâcher sa passion. Tout le monde parle d'autre chose. Mais lui, il parle de sa passion. Il ne va pas se conformer. Il ne va pas se cacher. Évidemment, on parle des choses beaucoup plus importantes que le foot australien. Je veux simplement dire, voilà, attention, on peut devenir fade. Mais il y a un encouragement aussi dans le texte. Il y a un encouragement. Cet encouragement, c'est verset 10, le 16, où Dieu dit, « Quand vous brillez comme lumière, les gens vont glorifier votre Père qui est dans les cieux. » Moi, je trouve ça, c'est merveilleux. Que notre vie puisse refléter la source, le centre de notre vie, le Père qui nous a aimés et envoyé Jésus. Illustration que je pense vous avez d'autres exemples. À notre ville de Strasbourg, l'année dernière, deux étudiants sont arrivés à un étude biblique et l'un était quelqu'un que j'ai déjà vu une ou deux fois au début de l'année. L'autre, je ne connaissais pas, mais je l'ai rencontré. Elle était la petite amie de ce gars, chrétien. En fait, ils venaient tous les deux. Juste après, le gars a décidé de rompre ses relations avec cette fille. Lui, chrétien, elle, non chrétienne. Ils étaient en cohabitation. Et Dieu a fait une différence dans la vie de mon ami parce qu'il s'est repenti de sa vie pour devenir encore quelqu'un attaché à Jésus. Comme maître, il était encore disciple. Sa vie n'était pas merveilleuse, évidemment. Son exemple a obscurci plutôt que brillé. Mais alors, après, ils ont rompu ses relations. Lui, il a changé, ce qui est la vie de tous les chrétiens. On ne peut pas juger quand on devient fade, mais on se réjouit quand on revient au Seigneur. Et lui, il est devenu le plus passionné des membres de ce groupe. Lui, il venait toujours en premier au groupe. Lui, il voulait animer des études bibliques. Lui, il était là à chaque semaine et à la fin de la soirée, il a dit « C'est excellent, c'est dommage, on doit s'arrêter maintenant. » Il a commencé à voir que Jésus brillait à travers sa vie. Je suis parti en Australie pendant 6 mois et quand je suis rentré, j'étais très encouragé, boosté par le fait que cette fille a vu le changement radical de son ex, qu'elle aussi a découvert Jésus. Elle a aussi participé au groupe biblique. Elle a vu d'autres chrétiens qui vivaient comme lumière. Et elle était aussi, à mon retour, un disciple de Jésus. Votre vie est comme une lumière, un flambeau qui brille, qui brûle. Je vais juste finir mon message. Comme j'ai dit, j'ai 3 choses. Vivez comme lumière de l'Évangile, chassez le pessimisme, et côtoyer des étudiants en campus. Je vais les faire avec Je vais laisser le micro, excuse-moi. Juste pour revenir à Matthieu 28. J'ai dit, il y a deux textes. Je vais montrer, Jésus a donné un serment sur le montagne. C'est plutôt les montagnes des Alpes. Hein. Jésus, à la fin de l'évangile, il a aussi monté sur une montagne pour rencontrer ses 12 disciples. Et quand vous lisez les deux textes, vous voyez la même idée revient. L'autorité. Jésus est roi. Quand Jésus a enseigné ses foules au sermon sur la montagne, ils étaient étonnés de son autorité. Mais quand vous regardez Matthieu 28, on parle de toute autorité. En quoi résume cette toute autorité qu'il a reçue? C'est suite à la mort et la résurrection de Jésus, il a la puissance de pardonner des péchés, parce qu'il est mort à la place des pécheurs. Il est ressuscité, il a la victoire sur la mort. Il a pu pardonner des péchés, mais sans avoir passé par la mort et la résurrection, ce n'était pas efficace. Et la deuxième chose que je vois, un parallèle, c'est entre Matthieu chapitre 5 et Matthieu chapitre 28. C'est là, il dit, brillez. Cette fois-ci, c'est aller. Brillez dans le monde, allez parmi toutes les nations. Ce que je veux juste retenir à la fin de ce message, c'est que briller, c'est à travers vous et moi, mais j'ai besoin de dire qu'il y a une formation qui doit passer entre ce moment où Jésus nous appelle et quand Jésus nous envoie. On doit devenir disciple, mais Jésus dit, je vous forme pour faire des disciples. Je peux vous dire, dans le GBU, nous avons parfois cette impression que finalement, les équipiers voient des étudiants qui veulent devenir disciples, mais ils ne passent pas à ce moment de penser, je vais faire des disciples. Je pense simplement qu'il y a des activités où on est un exemple, on espère, on fait d'évangélisation avec vous, et on espère que vous serez des disciples. Mais est-ce que nous avons transmis que vous avez aussi un rôle à faire des disciples? Et ce n'est pas simplement que vous soyez impliqués dans un groupe, mais que vous puissiez essaimer des groupes. Ce n'est pas simplement que vous soyez fidèles à ces groupes, mais que vous devenez des responsables pour ces groupes. Pourquoi on a du mal à voir des gens qui passent de devenir disciples à faire des disciples? Et je pense que c'est parce que Jésus, quand il a appelé ses premiers disciples, il a dit à Simon, il a dit à son frère, « Je vous appelle, devenez disciples. » Mais tout de suite, il a dit, je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Vous allez faire des disciples. » Et je vous dis, au début de l'année, on ne veut pas simplement que vous soyez fidèles comme disciples, que vous soyez animateurs des groupes, mais que vous soyez aussi ceux à la fin d'année qui vont faire d'autres disciples. Vous devenez des responsables. Vous allez multiplier des disciples. On ne veut pas des consommateurs, on veut des multiplicateurs. Nous allons prier ensemble. Je pense, si Mika a fait l'invitation. Anna, peux-tu prier ?